il y a les « va te coucher », les « bisous dans le cou », les « ramasse ta culotte que tu laisses par terre », les « j'ai oublié le sac de piscine », les petits bobos surjoués. Il y a aussi les petits mots, avec les fautes bien sûr. Vous savez, toutes ces petites choses qui font la vie en version parent. Aujourd'hui, c'est l'histoire aux mille anecdotes d'une fille ultra dynamique et aux mille vies. Tiffany Cooper, illustratrice, autrice, podcasteuse, ça c'est pour le pro. Côté perso, c'est une maman séparée. Nous allons découvrir la vision de la maternité de Tiffany et notamment son engagement féministe renforcé par la maternité et qui la guide aujourd'hui pour éduquer son fils. 105 000 personnes la suivent sur Instagram. Alors je vous rassure, ils ne sont pas tous là dans le studio, mais bien derrière elle à suivre ses traits d'humour, sa perception de notre société et sa vie de maman séparée. Je m'appelle Carole Tolila, je suis journaliste, maman de deux enfants et comme Tiffany, j'ai le mode parent activé. Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Alors nous allons parler avec toi de tes engagements, de cette maternité qui s'est construite lentement. Et là je te vois soupirer. On sort le grand dossier. Alors je sais qu'à la base tu ne voulais pas du tout d'enfant.
Oui.
Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qui te faisait rêver petite? Qui tu étais?
Quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait rêver? Tout ce qui, j'avais un univers créatif très très riche et je fuyais dans cet univers créatif très riche. Je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre à mon enfance. Pas que j'ai eu une enfance maltraitée, etc., mais un peu difficile. Et du coup, je sais que ça a été vraiment un refuge d'avoir un univers créatif comme ça, de dessiner, de peindre. Je mariais des escargots, j'écrivais des livres.
Trop beau.
Voilà, je faisais plein de choses créatives qui m'ont fait du bien.
T'étais timide alors, parce que si tu dis que c'était un refuge, pourquoi l'enfance était difficile?
J'ai vécu aux États-Unis de mes 3 à 5 ans et quand je suis rentrée, j'étais un peu en décalage avec les autres enfants parce que je parlais pas très bien français.
Okay.
Et j'ai découvert qu'à 30 ans que j'étais aussi au potentiel, comme on dit, ouais, avec une façon de penser et d'agir assez différente de la moyenne des gens. Et du coup, il y avait un décalage. Et en fait, les enfants, ils sentent très vite quand il y a un décalage avec les autres enfants. Et du coup, j'ai subi pas mal de harcèlement scolaire quand j'étais enfant. Et à la maison, ma mère avait 4 enfants à gérer, donc
elle beaucoup, a pas vu.
Je pense qu'ils l'ont, okay, tous les deux pas vu. Et ma façon de survivre un peu à tout ça, c'était d'avoir un univers créatif très riche.
Donc
c'est pas
dessiner.
Pour rien qu'aujourd'hui, je suis encore en pyjama dans ma chambre à dessiner. Mais non, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a permis de rendre ma vie plus belle, quoi.
Qui t'apaise.
Ah ouais, carrément.
Alors, dans tes dessins, est-ce que tu dessinais des mères avec des gros ventres ou pas du tout? Même si toi, tu voulais pas être mère, mais peut-être que ça t'intéressait.
Alors, pas du tout. Je dessinais, d'ailleurs, je crois que j'ai retrouvé une BD il y a pas longtemps où on voit une maman lapin qui est épuisée parce qu'elle s'occupe de tous ses enfants lapins. Et le père rentre le soir en disant, bah, il y a quoi à manger? Et elle claque la porte en disant, tu te démerdes. Et j'avais 10 ans. Mais quand j'y repense, je me dis, ouais, c'est vraiment ce que je voyais, en fait. Mais ma mère, ça lui pesait, quoi. D'avoir 4 enfants à gérer, c'est une vraie logistique. Et mon père était, bah, le breadwinner qui revenait avec sa mallette du bureau. Et vraiment, elle était, elle a tout porté, quoi. En termes de charge éducative, émotionnelle, médicale, charge mentale, tout ça, c'est vraiment elle qui a tout porté, quoi.
Donc ça, c'était le modèle que t'avais à la maison. Donc ça ne te faisait pas rêver.
Ah, mais pas du tout.
Du tout.
Pas du tout. Non, moi je me suis dit, moi ça va être ma carrière, je vais dessiner, je vais faire des choses extraordinaires. Un mec et des enfants, ça m'intéresse pas du tout. Et puis en fait,
C'était le package qui t'intéressait pas.
Ah non,
pas.
Mais moi c'était, je veux pas une vie comme tout le monde, je veux pas une vie chiante. Ouais. Et puis surtout, tout le monde était là, il va falloir que tu trouves un mari et que tu fasses des enfants. Mais c'était genre, mais pourquoi je vais m'enfoncer dans cette route alors qu'il y a un milliard d'autres routes possibles? Et puis à 30 ans, j'ai quand même commencé une thérapie en me disant, bah check juste que c'est pas un blocage, ouais, que ce soit un vrai choix. Et puis, en fait, 6 mois après, j'ai rencontré le père de mon fils.
Et là, bizarrement.
Et là, alors que j'avais jamais été vraiment en couple longtemps, etc., bah alors là, j'ai découvert l'eau chaude. C'est-à-dire, c'est quoi d'être amoureux, c'est quoi d'être aimé, c'est quoi d'aimer quelqu'un. Alors, c'était vertigineux. Plus j'étais amoureuse, plus j'étais là, mon Dieu, ça.
Enfin, ouais, parce que ça déconstruit tout ce que tu imaginais.
Oui, et puis moi, j'étais pas du tout. Tout le monde disait, mais l'amour, je me disais, quel intérêt? Et en fait, j'ai compris. Ouais. En fait, dedans, j'étais là, mais c'est incroyable. Et plus je montais, plus j'étais là, je vais tomber de très très haut, en fait, parce que ça fait peur quand on monte.
Bien sûr.
Et en fait, je me suis engagée, moi qui disais, la vie de vivre ensemble, c'est la fin du couple. On a aménagé au bout de 3 mois ensemble. Et puis moi qui voulais pas d'enfant, au bout de 2 ans j'étais là, mais oui, quelle très bonne idée, et on a fait un enfant. Et
t'as revu tous tes principes.
Ouais, mais j'aime bien l'idée de pas être trop bloquée, de pas avoir, comment dire, Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, ouais. comme on dit. Donc, je suis très contente de m'être permis de changer d'avis. Ouais.
C'est bien. C'est ouais. une marque d'intelligence, effectivement. Bravo. Mais alors, tu dirais que c'est l'homme ou c'est aussi la psy qui t'a débloqué?
C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est la démarche de ma démarche personnelle de vouloir aller voir un psy qui m'a permis de débloquer des choses. C'est lui aussi le père de mon enfant parce qu'il a été d'une patience infinie. Je veux dire, moi j'étais un hérisson, j'ai sorti tous mes pics quand il est venu s'approcher de moi et en fait il s'est armé de patience et il a tout fait pour m'apprivoiser. Et donc c'est un mélange de plein de choses. Moi je sais que ce qui m'a débloqué pour l'enfant, c'est qu'un jour quelqu'un m'a mal parlé. Et mon copain à l'époque, donc le père de mon enfant, m'a défendu. Et en fait, vu qu'on m'avait justement jamais défendu quand j'étais petite, parce que mes parents étaient débordés par mon père par son travail, ma mère par la logistique, pour une fois, quelqu'un would stand up for me. Et quelqu'un se montrait à la hauteur pour me défendre. Et en fait, ça a débloqué un truc dans mon cerveau. Je me suis dit, ah ouais, avec ce mec-là, j'ai envie de faire un enfant. Ça a été, mais du coup... Je pense que lui, pendant 2 ans, j'étais là, non, nul, pas envie. Tout d'un coup, j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais là, mais oui, faisons un enfant. Alors lui, il était là, ouais, ok. Enfin, je pense que ça a été un peu surprenant, je pense, pour lui. Mais bon, un mois après, on s'y est mis et on a fait un enfant, quoi.
Toi qui déteste les clichés, il a eu un côté chevalier, en fait, ton mec, à ce moment-là.
On est vraiment dans le cliché du sauveur. Et non, mais t'inquiète, j'ai fait toutes les étapes des découvertes des premières relations.
Comment tu as rencontré ton mec, alors? Raconte.
Un nouvel an, pareil, où je voulais pas aller parce que je déteste le nouvel an. Et il y avait une dizaine de personnes, et à l'époque, il était avec une autre fille. Et en fait, je me suis mieux entendue avec elle, d'ailleurs, qu'avec lui. Et lui, je l'ai même pas considéré parce qu'il était en couple. Et en fait, je sais pas, le truc de l'époque, j'étais sur Facebook, je l'ai ajouté sur Facebook. Elle, je l'ai pas trouvé. Et en fait, après, je l'ai unfriendé en plus. J'étais là, mais c'est quoi ce mec? Je sais même plus qui c'est. Et 3 mois après, il était célibataire et il m'a invité à dîner chez lui avec des amis. Et ma première réaction, c'était qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et puis je me suis dit, bah, qu'il veuille être ami ou plus, dans les deux cas, je suis OK. Et en fait, ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait comme ça. Et ouais. C'est lui qui a commencé à parler d'enfants?
Lui, assez vite, il en a parlé. Il disait qu'il voulait des enfants. Et je lui ai dit que moi, je voulais pas casser l'ambiance, mais j'étais là, bah, moi, j'ai pas trop envie. Il m'a dit oui, enfin, tu voulais pas de mec. Et regarde, t'as changé d'avis. Et j'étais là, c'est pas faux.
Pas faux, ouais.
Et donc, il a attendu. Et puis, bah, finalement, j'ai changé d'avis. Mais pas parce que je me sentais pressurisée, vraiment parce que c'était une grande joie pour moi. L'idée, quand je me suis dit, je vais faire un enfant, c'était vraiment une joie. Je me suis dit, c'est une expérience à vivre. Je découvrais une nouvelle facette de moi. Enfin, je me suis dit, ça peut être vraiment très, très chouette.
Ça, c'est intéressant. Quelle facette de toi tu découvres à ce moment-là?
Ben, je m'étais jamais vue. C'est-à-dire que j'avais 33 ans quand je suis tombée enceinte. Pendant 33 ans, je me suis jamais vue sous ce prisme-là. Et moi, j'ai deux grandes sœurs qui, elles, ont fait comme ma mère, c'est-à-dire ne travaillent pas et ont fait des enfants.
Okay.
Et donc, pour moi, avoir des enfants, ça voulait dire ne plus travailler. Et être à la maison, quoi, avec au service un peu de ses enfants et de son mari. Donc pour moi, c'était genre no
way,
quoi.
C'est ce que tu fuyais, en fait.
Ah, mais moi, je voulais surtout pas ça.
Ouais.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, un compromis était possible. oui, je sais. Et en fait, du coup, je me suis dit, en fait, je peux faire un enfant, mais juste un. Et puis, continuer à travailler. En fait, je me suis dit, il y a d'autres façons de faire, quoi. Mais c'était intéressant d'évaluer ça. Et puis, je me suis dit, au lieu de me dire... Parce que pareil, la grossesse, je me dis, ça va être un enfer. Ça va être... parce qu'une de mes sœurs, elle a eu plein d'effets secondaires et tout. Moi, je me suis dit, ça va être génial. Enfin, ça va être une expérience, un peu comme faire un saut en parachute, quoi.
Et ça a été génial, c'était un vrai saut en parachute.
Moi, je suis la meuf insupportable. Parce que la grossesse, c'était génial. J'ai juste eu le ventre qui poussait, quoi. Mais j'ai pas eu aucun effet secondaire, j'ai eu aucune nausée, j'ai eu aucun problème.
Aucun problème aussi avec ton corps, avec ton image.
Après l'accouchement, ça c'était plus dur.
Qu'est-ce qui était difficile?
Bah, j'avais du bide.
Ça, c'est normal.
Alors, j'étais toute contente parce que j'en avais moins que ce que j'avais déjà vu. C'est-à-dire que j'avais un ventre et j'arrêtais pas de dire au père de mon enfant, regarde, c'est pas si horrible que ça. Et lui, il était là, genre, oui, bien sûr. Mais en fait, il avait rien pour comparer.
Ouais.
À part mon ventre plat d'avant, donc forcément. Alors que moi, j'avais déjà vu des femmes enceintes qui avaient vraiment, on aurait vraiment dit qu'elles étaient enceintes après. Moi, j'étais assez contente. Mais je me souviens tout à fait qu'au bout de 10 jours après l'accouchement, de l'avoir appelé en disant, est-ce que je suis encore belle? Est-ce que tu me trouves encore jolie? Alors, bien sûr, il m'a dit, mais oui, mon amour, etc. Parce que t'as besoin d'être rassurée quand tu viens d'accoucher. L'estime de soi, quand tu viens d'accoucher, c'est chaud.
Ça, c'est dur.
Ouf.
Mais tu l'as récupéré assez vite ou pas?
Je sais pas trop, je l'ai un peu mis de côté. J'avais pas une mauvaise estime de moi, mais je me considérais pas spécialement moi. J'ai vraiment mis l'enfant au centre la première année. Et l'année d'après, après j'étais séparée, donc c'était plus dur. Moi, je dirais que l'estime de moi, je l'ai récupérée là, il y a pas longtemps. Quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, il y a 5 mois. Et qu'en fait, je commence à me respecter.
C'est beau.
Voilà.
D'accord.
Mais donc c'est et mon fils a 4 ans et demi, donc ouais, ça a pris du temps.
Ça a pris du temps, mais c'est important de le dire parce que on n'est pas toutes des guerrières et de temps en temps d'entendre que ça met un peu de temps, on se laisse du temps à soi.
Ben c'est ça. Après, dans les faits, oui, j'ai gardé deux kilos pendant encore 2-3 ans et j'ai pris le temps de les perdre, mais pas de façon régime, c'est-à-dire qu'en arrêtant de boire d'alcool et en me respectant, ben en fait, j'écoute aussi mon ventre. Enfin bref, et du coup, je les ai perdus, mais je sais pas. Les gens disent récupérer leur corps, ça dépend, ça veut dire plein de choses différentes pour les gens, ouais.
Bien sûr. Alors on va revenir justement sur ce bien-être que tu as trouvé, mais d'abord expliquons un peu la séparation. Tu dis que c'est au bout d'un an que donc l'histoire s'est terminée. Mm-hmm. Comment t'as vécu ce moment-là? Je sais que ça a été douloureux, donc pardon de raviver un peu.
Ah, moi, je suis pour libérer la parole.
Mais comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu es un tout petit bébé. Tout à l'heure, tu parlais de choses vertigineuses. Pour moi, c'est assez vertigineux de se dire, en fait, là, notre chemin s'arrête ensemble et je vais élever un enfant d'un an toute seule.
Alors, je l'élève pas toute seule parce qu'on est en garde partagée. Donc il y a une nuance vraiment quand les gens disent ah t'es maman solo, on est vraiment resté un couple parental, c'est-à-dire que on est là l'un pour l'autre, il y a aucun souci là-dessus. Par contre se séparer de la personne qu'on aime à la folie, moi j'ai grandi dans une famille où quand on trouve quelqu'un c'est pour la vie, et du coup moi qui voulais pas de mec, tout d'un coup je me suis autorisée à penser j'ai trouvé la bonne personne avec qui je vais faire ma vie, et se séparer au bout de un an, je me disais bah au pire dans 12 ans comme la moyenne des gens, mais je me disais pas au bout de un an.
Tu t'y attendais pas?
Bah je m'y attendais pas, et on s'est séparés pour des raisons personnelles, mais en plus je me sentais très isolée à la maison parce que bah lui continuait de vivre sa vie comme d'habitude. J'avais vraiment l'impression de tout gérer pour ce qui était déjà de la maison avant, mais de l'enfant. Je me sentais très, en fait, vraiment abandonnée quoi. Alors lui il serait pas d'accord avec cette version là, mais en tout cas moi c'est comme ça que je me suis ressentie, que je l'ai ressenti. Et quand on s'est séparés, j'ai décidé de partir parce que en fait on voulait pas la même chose. Il avait une vision de la famille et du couple très différente de la mienne, et du coup en fait au lieu d'attendre que ça pourrisse, on s'est dit bah en fait on arrête là quoi.
Mais t'avais pas perçu ça avant?
Non, parce que j'étais trop amoureuse. Je pense qu'il a toujours été à peu près honnête sur ça.
Ouais.
Et moi,
je le voyais pas, en fait.
À peu près, en fait, chacun, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, chacun un peu sait ce que l'autre veut, mais on était amoureux, on voulait faire un enfant. Et j'avoue, après coup, je me dis, si j'avais su, est-ce que je me serais engagée là-dedans? Dans tous les cas, je regrette pas parce que c'était une expérience quand même hyper enrichissante à vivre. Et puis, mon fils est extraordinaire. Je suis vraiment très, très contente là-dessus. Mais je pense qu'il y avait des signes avant-coureurs que j'ai refusé de voir. Parce que quand on aime quelqu'un, on dit oui, oui. Mmh. Et en fait, on n'entend que la version qu'on a envie d'entendre. Je pense que chacun, lui et moi, on a entendu la version qui nous arrangeait, quoi.
D'accord. Et en plus, tu t'es séparée au moment du Covid, ce qui n'a pas aidé.
Une semaine avant. J'ai aménagé dans mon nouvel appart. Et une semaine avant, j'étais en train de visser ma dernière étagère dans le mur. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir me reconstruire. Et 3 jours après, ils annonçaient le confinement.
Ça a été plus dur. La reconstruction a mis encore plus de temps, tu dirais.
Horrible. Ah ouais, vraiment. C'était franchement, toute cette année-là, fin 2019, toute l'année 2020, hyper, hyper dur. Et en même temps, c'est ce qui m'a vraiment construit et permis d'avancer, quoi.
Et à ce moment-là, t'étais en mode guerrière ou t'étais complètement écroulée à terre?
J'ai jamais trop été écroulée à terre, moi. un peu des deux dans la même journée. C'est-à-dire que je me réveillais, donc le confinement, j'étais dans une maison à la campagne avec mon fils. En fait, le père de mon enfant est resté à Paris le premier mois. Du coup, je m'occupais toute seule de mon bébé de 1 an qui se réveillait 3 fois par nuit à ce moment-là parce qu'en fait, il était complètement perturbé par tout ça.
Oui, et puis il sentait que t'allais pas bien.
Je pense, même s'il avait l'air joyeux, je pense que son père était pas là. Je veux dire, on était sur fond de pandémie mondiale. On n'était pas chez nous. Et en fait, j'étais arrivée là-bas avec 3 jogging et 2 pulls. Et en fait, en termes d'estime de moi, mais je me voyais dans le miroir, tu te maquilles pas parce que tu vas voir personne, du coup, et tu fais rien de ta journée, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Et en fait, j'avais envie d'en rire parce que j'étais là, mais ça, c'est le chaos, quoi. T'allumes la télé, il y a des mecs qui sont en train de construire des tentes, des hôpitaux. Et j'étais là avec ma bière, parce qu'à l'époque, je buvais. Le midi, j'étais là, non, mais sérieusement, c'est quoi c'est... D'où ma vie, elle est passée de « Ah, j'ai avec un mec, j'ai un enfant, la petite vie », où tu coches toutes les cases de l'hétéronormativité, tu vois. Et tout d'un coup, t'es solo, ta vie de couple et de famille s'est effondrée et le monde est en train de partir en vrille, quoi.
Et justement, tu avais du mal avec cette étiquette de maman solo. Est-ce que tu arrivais à faire face à ce statut vis-à-vis de ta famille, par exemple, où tout le monde est avec les enfants, enfin, dans des choses bien rangées?
Non, au contraire, moi j'ai toujours eu une fierté à faire les choses un peu différemment. Ça m'a pas du tout dérangée. Non, ce qui m'a vraiment blessée, c'est de me séparer parce que j'étais très amoureuse de lui. Mais je m'en fiche un peu. Enfin, je dis pas que je m'en fiche du regard des autres parce que je pense que comme tout le monde, j'y suis sensible à différents niveaux. Mais pour la séparation, je me souviens avoir dit à mon ex, qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Il m'a dit, mais on juge les gens tout le temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, tout le monde se juge, enfin, on s'en fout. Et en fait, j'étais là, c'est vrai, moi, je passe mon temps dans ma tête à juger le mode de vie des autres. En fait, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, enfin, c'est pas grave, quoi.
Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quel mode de garde tu as choisi et qu'est-ce que ça a déclenché chez toi, le fait de ne pas avoir ton enfant tout le temps avec toi?
Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est drôle, c'est la première chose qu'il m'a dit quand on s'est séparés, c'est j'aimerais le voir autant que toi. Alors qu'il y a des pères qui sont un peu démissionnaires, les statistiques prouvent que d'ailleurs, c'est plutôt souvent les femmes
ça
qui prennent à leur charge.
Rassurer.
Ben, j'aurais préféré qu'il veuille me garder, mais je suis contente qu'il ait voulu participer autant. Et en fait, on a mis en place assez vite, un an après, un accord parental auprès d'un juge, parce qu'on n'était pas mariés, papa que c'est rien. Donc on a une garde partagée tout à fait équitable et égalitaire puisque c'est une semaine sur deux.
D'accord.
Au début, il était tout petit, donc on faisait deux jours. Et puis au bout d'un an, on s'est dit, on va tester une semaine. En fait, c'est vachement bien une semaine. Et tout le monde s'y est retrouvé, et lui et nous. Et en fait, ce qui est génial, c'est que t'as plus besoin de négocier tous les jours avec la personne avec qui t'élèves ton enfant. C'est pas, non mais moi j'ai des trucs à faire, non mais tu sais j'aimerais bien aller au sport, non mais tu sais j'ai un cinéma samedi, oui mais le week-end dernier, ah ouais mais est-ce que tu peux racheter du lait?
Voilà. Au moins c'est cadré.
Ouais, c'est cadré, c'est ta semaine, tu gères, c'est ma semaine, je gère. Mais ça arrive qu'il y ait de la souplesse sur un ou deux jours ou des trucs comme ça. L'autre jour, le père de mon enfant s'est blessé à vélo, il a eu besoin que je m'en occupe la semaine où il devait s'en occuper, je m'en suis occupée, c'est un cas exceptionnel. Mais chacun gère sa moitié. Plus de négo.
Et comment tu gères la semaine où tu es sans ton enfant?
C'est le bonheur.
C'est honnête.
C'est le bonheur quand il est là. Je l'aime à mourir. Mais par contre, je n'ai plus besoin de m'occuper de quelqu'un. C'est aussi très fatigant de s'occuper de quelqu'un. En fait, juste, moi, j'ai envie parfois de ne penser qu'à ma gueule. Et en fait, de manger ce que je veux, à l'heure que je veux. Il y a des fois où je dîne à 17h. Il y a des fois où je dîne à 23h. Je peux passer la journée en pyjama à regarder des séries. Ou je peux sortir boire des coups avec des amis assez tard. Je n'ai pas besoin de m'habiller, de maquiller, d'aller chercher mon enfant à 17h, de dire « Allez, s'il te plaît, fais un effort, brosse-toi les dents ». Non, je peux penser qu'à moi. Et je trouve ça génial d'avoir les deux. D'avoir ma vie de avant, entre guillemets, de femme indépendante. Non, voilà. Vraiment une semaine sur deux, femme indépendante, artiste et tout ça. Et puis une semaine sur deux, je suis maman. Mais c'est pas tous les jours. Du coup, il me manque. Enfin, il me manque. Parfois, il me manque. Mais quand il repart, je suis contente aussi. D'ailleurs, on en parle avec son père, ça nous fait rire. On est là, salut. Et d'ailleurs, c'est lui, il nous dit, ah bah, il a aucun problème avec dire au revoir. Et c'est plutôt les autres parents dans la classe qui sont là, genre, ah, les pauvres. Et t'es là, mais pas du tout.
Non, il est hyper content. Tout le monde est content.
Il est content. Il va voir son père. Et du coup, lui, c'est pareil. C'est pas, il nous voit tout le temps, tous les deux. C'est une semaine avec maman, une semaine avec papa. Et il y a des avantages et des inconvénients chez les deux.
Donc, tu trouves ta maternité plus accomplie depuis que tu l'as une semaine sur deux?
Complètement. En fait, la psychiatre que je voyais à l'époque me disait un enfant, il a besoin que ses parents aillent bien. Parce que moi, je culpabilisais de me séparer. Elle me disait un enfant, il a besoin que ses parents aillent bien et qu'une communication soit possible à son sujet. Et en fait, j'ai commencé à aller bien quand je me suis séparée. Parce qu'en fait, j'étais toute seule à m'occuper de tout. Et en fait, quasiment. Enfin, il était là, il s'occupait de quelques trucs. Mais vraiment, c'était du 80-20%, quoi. Et là, tout d'un coup, c'était du 50-50. Et moi, j'ai recommencé à renaître à ce moment-là.
Non, mais c'est bien. C'est quelque chose assez rare, en fait, d'entendre cette joie aussi de reprendre le pouvoir de sa vie. C'est vrai que quand on est mère, on s'oublie parfois.
Mais... parce que la société nous inculque que les femmes doivent être dévouées totalement au service des autres, de leurs compagnons, de leurs enfants, etc. Et on apprend aux hommes à désinvestir. Nous, vraiment, c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai surinvesti l'espace domestique, donc je suis en partie responsable, et lui, il a sous-investi l'espace domestique. Et en fait, de fait, la séparation nous a obligés, et lui, moi, à lâcher un peu et à reprendre ma vie, et lui, à s'investir un peu plus. Et en fait, maintenant, moi, j'ai un épanouissement total. Et honnêtement, je dis parfois, alors je sais que ça choque, mais je ne sais pas comment font les gens qui ont un enfant à plein temps. Moi, ça me rendrait dingue. Si un jour il arrive un truc, je m'occuperai bien sûr de mon enfant à plein temps. Mais quel luxe d'être parent, mais pas tout le temps. C'est quand même génial.
Ben, ça correspond quand même à ton parcours de vie, finalement.
Ouais.
Alors justement, on va parler de ton fils. J'imagine que tu es très porté sur son éducation, justement, pour faire changer les choses et qu'il investisse, lui, plus tard, sa paternité et qu'il l'aide dans son foyer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu construis son éducation? Est-ce que tu es, par exemple, intransigeante avec les tâches ménagères?
Alors, il peut pas tout faire parce que, par exemple, il est pas assez grand pour faire la vaisselle, etc. Puis, il y a des fois où j'ai la flemme de lui demander. Du coup, je préfère faire moi vite. Mais j'essaye au maximum de le faire participer aux tâches domestiques. C'est-à-dire qu'il va étendre le linge, par exemple, avec moi. Il va préparer le petit déjeuner. Il va amener son plateau à table et le ramener. Je fais attention à ce genre de choses, quoi. Et je sais que son père fait un peu attention à ça aussi, à le faire participer, que ce soit pas le petit prince qui s'installe à table. Mais parfois, ça dérape encore. Hier soir, d'ailleurs, il m'a dit « Où est mon dîner ?» J'étais là.
Voilà, t'as yeux rouges.
Ah non, mais du coup, il m'a vu devenir une autre personne. J'étais là, pardon, j'ai pas bien compris. Je travaille, je fais des courses, je cuisine, je fais tout le déroulé de ce que je fais. Et toi, tu me dis, où est mon dîner? Mais pour qui tu t'es pris? Je lui dis, en fait, tout le monde participe, on vit ensemble. À ton échelle, tu peux pas tout faire. Mais par contre, tu participes. La moindre des choses, c'est de venir, de dire, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux ramener le plateau? Alors, il était là un peu merdeux et tout. Je lui dis, après, je me suis excusée de m'être énervée aussi fort. Mais en fait, juste, en fait, c'est la base. On vit ensemble, on participe. Tu n'es pas un petit prince. Je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ton chien. On se respecte et on fait à la hauteur de ce qu'on est capable de faire.
Ça, c'est des valeurs que tu as vraiment envie de lui inculquer.
Ah bah ouais.
Et ce féminisme, parce que tu as lu aussi beaucoup de bouquins là-dessus, je le sais, est-ce que tu l'as eu avec la maternité ou tu l'avais avant ?
Alors, je pense que le germe de féminisme est arrivé au moment où j'ai eu un enfant, parce qu'en fait, en gros, avant d'avoir un enfant, j'étais assez soumise de manière générale. Dans toutes mes relations, j'étais assez fuyante, j'avais peur du conflit. J'avais tendance à me faire toute petite quand quelqu'un commençait à s'énerver. Et en fait, quand on a un enfant, on doit le protéger. Et c'est drôle, ça a créé un truc en moi de... je dis parfois que je suis devenue une Kaira. qu'en fait, personne fait chier mon fils. Et du coup, je suis devenue une Kaira pour moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je laisse plus personne emmerder mon fils et plus personne m'emmerder moi. Et donc, je pense que de cette petite graine de révolte, elle est née avec mon enfant qui est arrivé. Et ensuite, du coup... Petit à petit, j'ai réalisé que mon ex prenait pas sa part, etc. Ça commençait à m'énerver. Je me souviens être passée dans une librairie à côté du livre de Titu Lecoq qui s'appelle Libérer, le combat féministe commence devant le panier de linge sale. Et je me souviens l'avoir vu en me disant « Ah, oh, ça a l'air trop bien, mais si tu le lis, tu vas vouloir le quitter. Donc ne l'achète pas. » Et en fait, la première chose que j'ai fait quand on s'est séparés, c'est d'acheter ce livre. Et je me souviens que je lui lisais des passages, alors parce qu'on vivait encore ensemble pendant 2-3 mois. Et il était là, j'avoue. Et en fait, j'étais là, mais ça m'a retourné le cerveau. Et en fait, à partir du moment où on s'est séparés, là, j'ai bouffé des centaines de livres féministes. Enfin, j'exagère, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et en fait, plus on en lit, plus t'as la rage, quoi.
Ouais. Ça t'a construite après?
Ben, complètement. Maintenant, je suis assez documentée sur le sujet déjà. Ouais. J'ai sorti un livre qui s'appelle Home Sweet Home, qui est sur les inégalités dans l'espace domestique, parce que c'est quelque chose que j'avais vécu. Donc, je l'ai parlé de mon point de vue, puis j'essaye de proposer des solutions.
Et ton fils, du coup, pour en revenir à ton fils, à son éducation, comment tu fais au quotidien pour lui inculquer ses valeurs de partage, ses valeurs aussi de non-genre? J'imagine que chez toi, tu es vigilante là-dessus. Comment tu fais?
Je fais au mieux parce que je réalise que je lui ai transmis plein de messages, mais je me rends compte que, d'ailleurs, il y a plein d'études là-dessus. Victoire Thuayon en a parlé notamment, et il y a plein d'études sur ce sujet qui montrent qu'en fait, la société finit un peu toujours par gagner, si on la fait très courte. Et qu'ils sont sociabilisés de toute façon. C'est-à-dire qu'ils passent sa journée avec d'autres enfants à l'école qui, eux, sont pas forcément sociabilisés de la même façon. Et ils comprennent globalement que tout ce qui est dit féminin est considéré comme négatif, que pour être un garçon, il y a certains codes un peu virils, etc. Et ça, ils le comprennent entre 5 et 7 ans. Et donc, mon fils, j'ai beau lui mettre des pantalons léopard zébrés, du rose, du violet, j'ai beau lui dire tout le monde participe, nanana, il me sort encore des phrases aberrantes du genre, le jour, il regardait un truc de Transformers encore, ou je sais pas quoi, je lui dis, mais pourquoi ça t'intéresse? Et je me foutais de la gueule des dessins animés en disant, ils partent toujours en mission, ces mecs. Et je lui dis toujours, il y a plus de garçons ou de filles dans ce dessin animé? À chaque fois, il dit, ah, il y a plus de garçons. Je lui fais identifier.
Mais, réalisé, ouais.
Voilà. Mais l'autre jour, je lui dis, mais pourquoi tu regardes ça? Il me dit, mais parce que je suis un garçon. J'étais là, non mais t'es sérieux? Et non mais
ça a dû tellement t'énerver.
Ah mais c'est ça. Et son père l'autre jour me dit, on est allé à la piscine et je lui ai mis des brassards roses. Et il a dit, je veux pas les mettre parce que c'est des brassards de filles. Du coup, j'ai rapporté. J'ai dit, papa m'a dit que tu voulais pas mettre les brassards parce qu'ils étaient roses. Il m'a dit, ce n'est pas vrai. J'étais là, bah si. Alors déjà, il devait se dire.
Ça veut dire que selon le parent, il adapte son discours.
Bah
quand même.
Ouais, parce que moi, en général, c'est déjà arrivé qu'il me mette une main devant son visage en disant, oui, c'est bon, parce qu'en fait, il veut pas mon laïus féministe. Il a que 4 ans et demi, mais il est là, ah, c'est bon, elle partait dans son monologue sur machin. Mais le fait que son père me répète et que je lui dis mais moi je suis pas d'accord avec ça, toutes les couleurs sont pour tout le monde, c'est la grande phrase quand on vient ensemble, tout le monde participe et toutes les couleurs sont pour tout le monde. Et parfois j'y vais même un peu plus loin, je lui dis il y a une vulve sur le rose, il a, bah non et tout, je dis bah alors et en fait pour qu'ils comprennent l'absurdité du raisonnement en fait.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, tu dis avec le papa, c'est-à-dire que vous avez vraiment une éducation conjointe. Tu disais qu'il n'y avait plus le couple amoureux, mais par contre, vous restez un couple de parents. Comment tu arrives à gérer cette situation? Surtout qu'on sent quand même que tu as eu des sentiments pendant longtemps avec lui. Donc j'imagine que tu as essayé de le récupérer.
Ah, mais pas du tout. Moi, quand je prends une décision, je m'y tiens. Et je savais que c'était la bonne décision. Donc j'ai jamais, jamais essayé de le récupérer. Par contre, c'est très dur de se détacher. Il y a quand même un attachement.
Ouais.
Et effectivement, je pense qu'il y a un truc où tu veux le garder pour toi. Là, en l'occurrence, il est en train de faire un enfant avec sa nouvelle compagne. Donc là, il y a encore un nouveau step qui est, on n'est plus.
Là,
c'est
tu
plus,
te détaches encore plus.
C'est, oui,
ouais.
C'est plus que nous trois et il a sa copine. C'est ils vont être une famille, mais nous aussi, on reste une famille. Et en fait, ça crée des nouveaux trucs. En fait, il crée une famille avec elle, mais il est quand même, de fait, un peu une famille avec moi, puisqu'on a un enfant ensemble, on a un livret de famille. Mais je pense que, et lui et moi, on a à cœur de bien s'entendre et de communiquer pour notre fils. Parce que franchement, quand on voit ce qu'il est devenu et ce qu'il est aujourd'hui, on a envie que ça continue. Et en fait, vu qu'on parle de façon respectueuse, en tout cas quand il est là, et qu'on fait en sorte que ça se passe bien, de s'envoyer des photos, de se raconter des trucs, je pense qu'il y a de l'amour qui circule encore, et du coup, notre fils, il va bien, parce qu'il n'y a pas de haine, ou de « je te retiens des informations » et de « je te punis en te répondant pas au texto » ou de « monter l'enfant contre l'autre parent ». Pas du tout. Il n'y a que du « on s'entend bien » et du coup, ça se passe bien, quoi.
Tu nous dis qu'avec le père de ton enfant, vous êtes en phase en matière d'éducation. Est-ce que tu laisses la place à d'autres personnes, c'est-à-dire les conjoints, les futurs conjoints, les amis, les parents?
Pour ce qui concerne la compagne du père de mon fils, c'est pas à ma place de dire quelle place elle peut avoir. Donc c'est lui qui a mis le cadre qu'il voulait par rapport à ça. Je sais qu'elle lui apprend des chansons parce qu'elle est musicienne. Mon fils parfois me sort des chansons. Je dis mais elle est géniale cette chanson et il me dit que c'est elle qui lui a appris. Donc ça je trouve ça plutôt chouette. Et puis elle est anglo-saxonne donc du coup je trouve ça chouette parce qu'elle lui apporte quelque chose de nouveau,
d'autre,
quoi.
Ouais.
Mais qui n'est pas dans une éducation. Je sais qu'en tout cas dans leur dynamique à eux pour l'instant c'est pas elle qui joue la maman, qui lui lit une histoire pour se coucher, qui va le chercher à l'école.
Ça, ça te dérangerait?
Ouais, je crois. C'est sûr que j'aurais un peu de mal parce que c'est moi la maman, mais je crois que dans son esprit à lui, c'est assez clair aussi. Et du coup, là-dessus, on est raccord. Mais encore une fois, si ça doit changer, je m'adapterai. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore présenté de compagnon à mon fils, mais j'avoue qu'il y a pas longtemps j'étais en vacances avec des amis et j'ai un de mes amis qui, parce que mon fils rechignait à manger, est intervenu pendant le repas en disant tu écoutes ta maman et tu manges, et j'étais un peu là genre tu es qui pour intervenir. Sur le coup j'ai pas vraiment réagi, et c'est parce que mon fils avait l'air d'avoir peur de lui parce qu'il a une grosse voix que je lui ai dit, mais en fait je lui ai dit devant mon ami, je lui ai dit mais en fait t'inquiète pas, c'est moi ta maman, c'est pas lui ton papa, et s'il va trop loin je lui dirai. Donc mon ami était un peu blême et était là non mais je voulais t'aider,
et voilà,
j'avais envie de lui dire mais tu n'as pas besoin de m'aider en fait, parce que je suis son parent et une semaine sur deux il a un papa et c'est ma place, c'est pas la tienne. Et mes parents et mes frères et sœurs se permettent pas du tout d'être intervenants dans l'éducation, vu que mes sœurs ont toutes des enfants. On se permet parfois de recadrer les enfants des unes et des autres quand ils vont trop loin, mais si le parent est là on se permet pas, c'est
on
vraiment
se met en retrait.
Ouais.
Je sais que tu as un tatouage où il y a écrit Tough Cookies.
Oui.
Donc c'est vraiment le côté guerrière là, c'est-à-dire celle qui est dure, enfin celle qui veut se battre. Et est-ce que aujourd'hui tu es sereine?
Mieux.
Ouais.
Mais je pense que de manière générale, que ce soit à mon échelle personnelle avec ce que j'ai vécu ou quand on est féministe tout court, je crois que c'est un peu impossible d'être apaisée. Je pense
que ton fils ne t'a pas aidé là-dessus.
C'est-à-dire?
Est-ce qu'il n'a pas donné plus de sérénité à ta vie?
Je pense que je suis surtout plus confiante. Je pense que j'ai plus confiance en moi depuis que je suis maman, je dirais. Mais le fait de devoir être la personne solide sur qui ton enfant compte, ça fait de fait que, je sais pas, je me sens beaucoup plus assurée qu'avant. Alors apaisée, je pense qu'on passe sa vie à essayer de devenir apaisée. Je le suis plus qu'avant, ça c'est sûr.
Et est-ce que ton enfant ou la séparation, c'est ça qui a déclenché ton bien-être personnel? Tout à l'heure, tu disais que tu avais arrêté l'alcool, par exemple. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'occuper de toi?
Je pense que c'est un cheminement personnel. Les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts. Je pense que déjà, je me sentais pas respectée. Encore une fois, même si je pense que le père de mon enfant a pas la même vision des choses, mais moi, je me sentais pas respectée quand on était ensemble. Du coup, déjà, le premier pas vers le respect de soi, c'est de partir et de dire en fait, je considère que tu ne participes pas assez et moi, ça correspond pas à ce dont moi j'ai envie. Donc, au lieu de rester et de subir ça, je m'en vais et je décide que même si je t'aime, je vais être seule. Mais je préfère être seule et de me sentir respectée que de rester et de me sentir pas respectée. Donc ça, c'est un premier pas d'amour vers soi. Et puis l'alcool, c'est parce qu'en fait, c'est une mauvaise habitude que j'avais prise depuis 23 ans. Et en fait, c'est à force, tu te dis, j'ai 38 ans et ça m'arrive encore d'avoir la tête à l'envers à cause de ça. Mais qu'est-ce que tu fais en
Donc,
fait?
Donc tu ne touches plus aucune goutte d'alcool.
Fini. Bah, mais ça
Donc,
a été un long process.
Parce que tu dragues quand même. Tu dis non, je vais prendre un petit mentalo.
Mais en fait, être sobre, c'est vivre les choses deux fois plus fort, en fait.
Ouais.
En fait, quand on boit, on a l'impression d'être enivré, mais en fait, souvent, ça, il y a des mèmes là-dessus. D'ailleurs, tu vois la personne et après tu la vois floue et t'es là, ah, ça passe. Enfin, tu vois, le mec avant, vrai. Il ressemble à rien, avec l'alcool, il ressemble à Brad Pitt. Ouais. Enfin, non, mais en tout cas, je trouve que d'être complètement pleinement conscient de ce qu'on fait, ça peut ajouter, ça ajoute. Plein de choses, en fait.
Et pour prendre soin de toi, j'imagine que si tu arrêtais l'alcool, tu manges sainement. Est-ce que tu fais du sport aussi? Et est-ce que tu fais ces choses-là autant la semaine où tu as ton fils que la semaine où tu l'as pas?
J'essaye d'en faire autant. J'essaie de faire du sport trois fois par semaine au moins.
Ah, c'est bien, attends.
Ouais.
J'essaye.
Après, quand il est là, j'avoue, ça fait des journées un peu sport, du coup, parce qu'à 17h, il faut partir, il faut bosser, il faut tout caler, quoi. Ça, c'est un peu compliqué. Manger sain, oui. Après, j'ai remarqué que quand je suis avec lui, au bout d'une semaine, de toute façon, gérer la frustration, vu que j'ai plus d'alcool, j'avoue que, le soir, t'es plutôt là, viens, en commander des frites, que de manger des lentilles avec des saucisses végétariennes, etc. Mais, je suis assez cohérente sur les deux aspects, quoi. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans, justement, notre vie de couple, pour celles qui t'écoutent? Quelle est la chose qu'il faut mettre en place absolument?
Déjà, ce que je dis souvent, ils peuvent acheter mon livre et le laisser traîner aux toilettes pour que les mecs le lisent, parce qu'en général, ça plante une graine dans leur tête, dans les choses concrètes. Si le mec est pas prêt à faire le taf, on peut partir, vraiment, tout simplement. Et puis, non, parce qu'en fait, le truc, c'est que...
On n'a dit pas que des divorces, s'il te plaît.
Mais en fait, le truc, c'est que c'est un couple, il faut que les deux travaillent sur la relation. Si vous réalisez que vous êtes la seule et que l'autre, il ne bougera pas ou seulement pendant deux semaines pour te rassurer, etc., ça ne sert à rien de rester. Par contre, si vous avez un partenaire qui veut bien avoir ces conversations et se remettre en question, alors ouais, grave, il faut le travailler à fond et c'est super et allons-y, quoi. Il y a plein de livres qui existent sur le sujet.
Et aussi, tu encourages les pères à prendre le congé paternité. Je sais que ça, c'était
Mais oui.
un de tes combats.
Et surtout, très précisément, un congé paternité seul. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ils le font en même temps que la femme et du coup, ils font vite fait les courses, mais c'est la femme qui s'occupe de tout. En fait, c'est aussi important que le père, très tôt, se retrouve 1 à 3 mois seul avec son enfant. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on n'est pas seul avec son enfant. Donc oui, congé paternité, mais pas en même temps que la mère. C'est-à-dire en même temps que la mère pendant 2-3 semaines, 1 mois, mais aussi 1 mois tout seul. Parce que ça, je peux te dire que t'apprends la vraie vie directe.
Eh ben parfait, ça c'est un très bon conseil. Alors pour finir, dernière question. Une grossesse sur le papier, c'est 280 jours. Bon, globalement, parce qu'on sait toutes que la grossesse, c'est vraiment très variable. Qu'est-ce que tu dirais pour toi? Combien de jours pour te sentir maman?
Je crois que j'ai réalisé que j'étais maman seulement quand il est sorti.
Mais c'est pour ça que ça m'intéresse ta réponse.
C'est drôle parce qu'en fait...
Est-ce que c'est 4 ans après?
Non, c'est vraiment à partir du moment où je l'ai vu, j'étais là, ah, oh my god, it's real. Genre, c'est pas un fantasme, c'est pas juste un gros ventre, c'est il y a un être humain. Et là, j'ai réalisé, et là, en fait, c'est là que tu te prends la claque dans la face. Je crois que c'est quand je l'ai vu et qu'ils l'ont mis sur mon ventre. Alors là, vraiment, le plus beau moment de ma vie, vraiment. En toute sincérité, hein, avant d'avoir un enfant, j'aurais dit gna gna et tout. Mais vraiment, le moment le plus puissant que j'ai vécu de ma vie, c'était ce moment-là, quoi.
C'est sûr que toi, d'habitude, tu veux pas faire fantasmer les filles sur la maternité. Et là, tu viens à la fin de ce podcast de le faire en disant le plus beau moment de ma vie.
Mais c'est incroyable. T'as fabriqué un être humain et tu le vois. Mais on est devenus des demeurés. On était là, tu es beau. On pleurait. C'était la fontaine et tout. Et j'étais là, mais incroyable. Mais on était fous d'amour. Ça rend fou, quoi.
C'est marrant parce que c'est toi qui dessines, mais là, je viens d'avoir l'image, le dessin de ce que tu viens de me dire. Merci Tiffany, c'était génial.
Caroline.
Merci pour ton énergie, ta bonne humeur et pour nous ouvrir aussi l'esprit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Mode Parent Actif. Cultiver, le podcast cofinancé par les produits laitiers et l'Union européenne, signé Chérie FM. Ensemble, nous avons une mission, lutter contre la sédentarité. Et pour cela, on vous raconte des histoires de parentalité qui bougent, mais pas que. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, ce serait quand même dommage de rater un épisode. Et si vous aimez ce podcast, allez, laissez-nous un petit commentaire, des étoiles, ça nous donnera un petit boost d'énergie pour la suite. Mode parent activé est disponible sur le site de Chérie FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors, à très vite !